RFI, bonsoir. Il est 17h en temps universel, 19h ici à Paris.
Nicolas Brousse.
Dans une heure, les premières estimations des résultats du premier tour des législatives anticipées en France seront-ils, comme beaucoup l'ont pronostiqué, historiques? En tout cas, la participation est plus forte, bien plus forte que lors des dernières législatives en 2022. La Hongrie prend demain la présidence de l'Union européenne. Son premier ministre Viktor Orban veut lancer au Parlement européen une nouvelle alliance patriotique avec le parti de son homologue tchèque populiste et le FPÖ autrichien d'extrême droite, au risque de fragmentation. Décryptage à suivre avec notre correspondant à Bruxelles. État d'alerte pour nos auditeurs des Antilles. L'ouragan Beryl, premier de la saison, arrive. Il vient de passer en catégorie 4, qualifié de très dangereux. Il va fondre sur la Martinique, notamment d'ici demain matin. Certains bureaux de vote en France sont déjà fermés dans les villages et petites villes. Dans les plus grandes cités, on peut voter jusqu'à 20h, heure à laquelle les premières estimations seront autorisées. En attendant, Charlotte Urien-Tomaca, vous êtes pour cette soirée en direct du ministère de l'Intérieur. Une chose est déjà certaine, ces législatives anticipées issues de la dissolution de l'Assemblée nationale ont mobilisé.
Oui, on avait déjà compris ça avec la participation à midi. Et il faut retourner à 1978, il y a donc 46 ans, pour retrouver un plus fort taux de participation qui, à l'époque, était de 68,8%. Et donc, vous l'avez dit, 59,39% de participation à 17h. C'est 14 points de plus que de participation qu'aux élections européennes du 9 juin. Les projections donnent un taux de participation de 69% environ à 20h, selon les estimations. Alors, indéniablement, la mobilisation des électeurs, vous l'avez dit, pour ces législatives anticipée a fonctionné, et avec cette participation, eh bien cela pourrait favoriser les triangulaires pour la semaine prochaine et même des quadrangulaires, car quand la participation est forte, eh bien ils peuvent être 3 ou 4 candidats au second tour. Pour rappel, pour qu'un candidat ait le droit de se présenter au second tour, il doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits. Et il faut savoir qu'on a beaucoup voté dans le département du Tarn, dans le Finistère également, mais aussi en Dordogne, et c'est comme souvent dans les départements français du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis qu'on a le moins voté aujourd'hui en France.
Charlotte Urien-Tomaca en direct du ministère français de l'Intérieur avec les moyens techniques de Julien Boileau, que l'on retrouvera dans l'édition spéciale qui commence dans 43 minutes sur RFI. RFI Matin demain sera également largement consacré aux résultats de ce premier tour, des résultats que vous pouvez suivre aussi en direct sur le live blog d'RFI.fr. Autre chiffre attendu et qui ne devrait plus tarder en Mauritanie, où l'on votait hier pour le premier tour de la présidentielle. 7 candidats en lice, dont le chef de l'État sortant. Il est candidat à un deuxième mandat et il est bien parti face à ses 2 principaux opposants. En Afrique encore, alors que la RDC célébrait aujourd'hui le 64e anniversaire de son indépendance, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda continuent leur progression dans le Nord Kivu. Après Kanyabayonga puis Kaina, ils ont repris ce matin l'agglomération de Kirumba, une ville de 85 000 habitants. Nouvelle étape de leur avancée vers Bouteille. Tembo. Au Kenya, plusieurs centaines de personnes ont marché pacifiquement aujourd'hui dans les rues de la capitale Nairobi. Ils ont rendu ainsi hommage aux victimes des manifestations anti-gouvernementales meurtrières de mardi dernier. Selon Human Rights Watch, au moins 30 personnes ont été tuées. Une mobilisation qui a fait reculer le gouvernement sur son projet de nouvelle taxe. « Je n'ai pas de sang sur les mains », vient de déclarer ce soir le président William Ruto dans une interview. Alors que son pays prend demain la présidence tournante de l'Union européenne, Viktor Orban veut créer un nouveau groupe parlementaire d'extrême droite au Parlement européen. Le Premier ministre hongrois a lancé ce dimanche une initiative à Vienne avec le FPÖ autrichien et l'ANO tchèque. Une plateforme qui doit encore attirer des élus de 4 pays pour être reconnue comme un vrai groupe. Mais d'ores et déjà, l'initiative vient fragmenter encore un peu plus l'extrême droite européenne qui a pourtant connu une poussée aux dernières élections. Décryptage à Bruxelles avec Jean-Jacques Héry.
Lors de la mandature précédente, l'extrême droite européenne était divisée en 2 groupes bien distincts, ID, Identité et démocratie, où siège le Rassemblement national, et le groupe ECR, conservateur et réformiste des Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Récemment, et malgré de profondes divergences entre les 2 groupes, notamment sur la question ukrainienne, les 2 leaders politiques s'étaient rapprochés, avec des discussions facilitées par l'exclusion du controversé parti allemand AfD du groupe ID, après de nouvelles déclarations polémiques. Cependant, on était encore loin d'une fusion entre les 2 groupes. Dans ce contexte, l'annonce aujourd'hui du Fidesz de Viktor Orban de vouloir former un nouveau et troisième groupe d'extrême droite fait voler en éclats toute hypothétique idée de super groupe parlementaire européen d'extrême droite, venant même fragmenter encore un peu celle-ci. En effet, le parti autrichien FPÖ s'associant à cette initiative baptisée Patriotes pour l'Europe, cela signifie que ces 6 eurodéputés qui siégeaient jusqu'à présent avec le groupe ID vont quitter celui-ci pour rejoindre ce troisième groupe d'extrême droite. La situation est décidée mouvante puisqu'en parallèle, l'AFD, après son exclusion du groupe ID, cherchait encore jusqu'à récemment, elle aussi, à former un groupe parlementaire en s'alliant avec des petits partis non inscrits. Si l'initiative allait au bout, cela viendrait créer un quatrième groupe d'extrême droite au Parlement européen. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
La bande de Gaza était ce dimanche encore sous les bombardements israéliens. L'armée continue notamment de s'attaquer au nord de l'enclave. Bombardements, mais aussi depuis plusieurs jours, combats au sol entre les soldats israéliens et les combattants du Hamas, notamment dans le quartier de Shujaya, à l'est dans la ville de Gaza. Des dizaines de milliers d'habitants ont dû fuir. Le premier ministre israélien confirme ce soir les opérations à Gaza donc, mais aussi à Rafah. Benjamin Netanyahou qui reconnaît que c'est un combat difficile. La conférence internationale sur l'Afghanistan a débuté aujourd'hui à Doha. Une rencontre entre les talibans qui dirigent le pays depuis 2021 et l'ONU ainsi qu'une vingtaine de pays dont les États-Unis. C'est la première fois qu'une délégation talibane est invitée à la table des Nations Unies car la crise humanitaire est bien installée dans le pays. Mais pour plusieurs organisations, dont Amnesty International, cette présence risque de légitimer l'oppression des Afghanes. Pour mémoire, les talibans interdisent aux jeunes filles l'accès à l'éducation secondaire et supérieure, ainsi pour les femmes que l'accès à certains emplois, au parc ou encore aux salles de sport. Écoutez, Ahmad Fahim Abdoulatif, doctorant en sciences politiques aux séries Sciences Po, il était tout à l'heure l'invité des RFI Midi.
La communauté internationale insiste et souligne clairement que de dialoguer avec les autorités afghanes ne veut pas dire les légitimer. C'est pas dans ce but-là. Mais de facto, oui, c'est une forme de légitimation parce que ils reconnaissent l'état de fait, l'état actuel où le gouvernement est complètement contrôlé par le Taliban et où il va falloir dialoguer avec eux. Sinon, il va y avoir une énorme crise humanitaire sans coopération. N'oublions pas qu'il y a une crise assez extraordinaire humanitaire et économique en Afghanistan qui n'est pas à l'ampleur de 2021-2022, mais qui est quand même surprenante et extraordinaire par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire avant 2021 et la prise de pouvoir des talibans.
Entretien avec Charlotte Hydrac dans RFI Midi à retrouver en intégralité sur RFI.fr. En Chine, l'activité manufacturière est en berne selon les données officielles. L'indice des directeurs d'achat PMI baromètre du monde industriel s'est établi au-dessous de 50 au mois de juin, ce qui indique une contraction du secteur, un signe inquiétant pour la deuxième économie mondiale qui peine à retrouver son élan depuis la fin du Covid. Économie encore, le groupe Atos, fleuron technologique français dans une très mauvaise espace va être repris par ses banques et créanciers. Accord annoncé ce soir par la direction qui espère ainsi sortir de la crise rapidement. D'autant qu'Atos, devenu colosse de l'informatique au pied d'argile, est un pilier technologique des Jeux Olympiques de Paris. En France métropolitaine, mais aussi en Suisse, Italie et Allemagne, les violents orages ont fait au moins 7 morts au total dans ces 3 pays ce week-end. L'alerte est à présent levée. En revanche, alerte pour nos auditeurs des Antilles. L'ouragan Beryl, le premier de la saison, arrive. Il vient de passer en catégorie 4 et Simon Rosé, il devrait frapper les îles du Vent, dont la Martinique, d'ici demain matin.
Beryl se trouve au large des Petites Antilles. Il est passé de tempête tropicale à ouragan dans la nuit de samedi à dimanche, avant d'être reclassé en ouragan majeur à mesure qu'il s'est renforcé. Des rafales d'au moins 180 km/h sont attendues. C'est le premier et il arrive bientôt dans la saison. C'est un phénomène rare qui s'explique notamment par les températures anormalement élevées de l'Atlantique Nord. Beryl lance ainsi une saison des ouragans qui s'annonce record. Tous les ingrédients sont réunis. Eau chaude donc et une transition entre les phénomènes El Niño qui est en train de s'achever et la survenue de son pendant, la Niña, dans les mois qui viennent. Les experts anticipent ainsi cette année plus d'une trentaine d'ouragans sur l'Atlantique Nord, dont une petite dizaine qualifiée de majeure. C'est 2 fois plus que la moyenne. Beryl, lui, devrait atteindre les îles du Vent dans la nuit de dimanche à lundi. La Martinique, la Barbade, Trinité et Tobago, entre autres, qui se préparent à affronter des vents potentiellement mortels, selon le Centre national américain des ouragans, et des vagues de plusieurs mètres de haut.
Simon Rosé, chef du service environnement de RFI. Tout de suite, idée avec Pierre-Edouard Deldic et dans une demi-heure, édition spéciale législative française sur Radio France Internationale.